c'est sans doute une utopie et je dirais un défi qui n'est pas difficilement relevable que de faire une présentation suffisamment exhaustive et succincte d'un dictionnaire des risques psychosociaux. Comme vous l'avez vu, cet ouvrage est dense, important. J'ai effectivement accepté pour les coordonnateurs de vous faire cette présentation sur Bordeaux puisqu'ils ne sont pas originaires de Bordeaux. Alors Philippe Zavieja et Franck Guarnieri, qui ont coordonné cet ouvrage, sont l'un et l'autre chercheurs associés au Centre de recherche sur les risques et les crises Mines Paris Tech. Et donc Franck Guarnieri est le directeur de ce centre de recherche. Donc j'ai eu effectivement l'opportunité de participer à ce dictionnaire. Alors, un dictionnaire, à quoi ça sert un dictionnaire, et particulièrement un dictionnaire des risques psychosociaux, si ce n'est d'inventorier, de cerner des connaissances. Mais effectivement, si on s'inspire de Diderot, il ne s'agit pas d'enchaîner les connaissances. Et dans ce domaine-là, on peut dire qu'effectivement, on a beaucoup de connaissances. Et ce dictionnaire n'est pas fait pour enchaîner les connaissances, mais plutôt pour, non pas les accumuler, mais finalement les mettre en forme, les mettre en lien. Et nous avons effectivement dans ce domaine-là beaucoup besoin de mettre du sens sur ces différentes connaissances sur les risques psychosociaux. Donc c'est une encyclopédie, c'est un dictionnaire de mots, de définitions, d'explications. Alors peut-être commencer par vous dire que ce dictionnaire, c'est tout d'abord 314 entrées, 251 contributeurs, donc vous voyez qu'effectivement la contribution est vaste, diverse, qui mettent en exergue et en synergie plusieurs disciplines. Alors, comme vous le verrez, une majorité de psychologues sont intervenus dans ce dictionnaire. Pourquoi ? Parce que, évidemment, la psychologie était beaucoup intéressée, s'est beaucoup penchée sur cette problématique des risques psychosociaux. Mais la psychologie, elle est diverse. Donc, les contributeurs psychologues dans ce dictionnaire sont des psychologues soit tournés vers la psychologie sociale et des organisations, soit vers la psychologie du travail, soit vers la psychologie clinique, soit vers la psychologie de la santé, soit vers la psychanalyse, la psychiatrie. Mais aussi, ce sont des intervenants venant de l'ergonomie, venant de la sociologie du travail, des organisations, mais également la médecine du travail, le droit du travail et de la sécurité sociale, les sciences de gestion et enfin la philosophie. Donc on voit bien que la question des risques psychosociaux, bien sûr, interpelle, interroge et finalement incite à la recherche de multiples disciplines. Et associé à ces chercheurs, il y a bien sûr des entrées de préventeurs, des entrées présentant des instances, je dirais des organisations, des organismes, mais aussi des métiers et des professions. Donc un dictionnaire très diversifié qui essaie finalement de faire le lien entre ces différentes connaissances. Alors peut-être ce que je ne vous propose pas, c'est à partir de chaque lettre de l'alphabet un exemple d'entrée, mais c'est peut-être plutôt de vous proposer finalement une lecture transverse de ce dictionnaire à partir de différents axes de problématiques que l'on va retrouver toujours sur celle des risques psychosociaux. Mais il me semblait quand même important pour effectivement peut-être contextualiser, je dirais, cette présentation, parce que tout le monde dans l'assistance ne connaît peut-être pas ce que sont les risques psychosociaux, peut-être pour commencer par une définition qui semble quand même, je dirais, la plus unanime. J'ai retenu celle de l'Agence La Santé et Sécurité au Travail, pour laquelle les risques psychosociaux... Alors, les termes sont importants parce que ce sont des termes que l'on va retrouver systématiquement dans les problématiques et les thématiques, effectivement, autour des risques psychosociaux. C'est un ensemble de contraintes psychologiques, mentales, sociales, organisationnelles, bien sûr au travail, susceptibles d'induire des effets néfastes sur la santé de celui qui les perçoit. Et la notion de perception est évidemment très importante. Et bien sûr, ces risques sont considérés au sens de la probabilité qu'un trouble physique ou psychologique se manifeste à la suite donc de ces ensembles de contraintes. Alors, il regroupe d'autres, je dirais, thèmes que l'on connaît par ailleurs, qui ont donc été rassemblés sous ce terme de risques psychosociaux. Ce sont bien sûr les notions de stress au travail, celles de violence au travail, de harcèlement, d'épuisement professionnel qu'on entend maintenant sous le terme de burn-out, de souffrance, mais aussi de dépression. Donc, les risques psychosociaux vont regrouper à la fois des causes, mais aussi des conséquences. Des conséquences psychique, mais ce qui effectivement n'est pas forcément énoncé dans ce regroupement, des conséquences également physiques. Alors pourquoi parler, pourquoi écrire sur les risques psychosociaux ? On peut dire que c'est un énième ouvrage sur les risques psychosociaux, c'est le premier dictionnaire, mais effectivement ce n'est pas le premier ouvrage en France sur les risques psychosociaux. Bon, on peut effectivement dire que depuis une vingtaine d'années, les conditions de travail révèlent certaines difficultés croissantes. Alors certaines études, bien sûr, le montrent, certaines enquêtes nationales également et internationales le montrent. Celle de devoir faire vite, de respecter des délais, c'est d'une certaine manière, dans la perception collective et dans une certaine réalité, une intensification du travail. C'est également une autonomie toute relative avec l'accroissement des normes de qualité, de l'utilisation d'indicateurs de gestion, mais également l'accroissement des changements, la fréquence accrue des changements organisationnels, qui effectivement provoque, ou au moins induit, un passage évolutif de contraintes physiques vers des contraintes de plus en plus psychologiques. Ceci est le constat effectivement général que l'on peut faire, qui nous amène collectivement à parler de plus en plus des risques psychosociaux au travail. Alors, ce que je vous propose, c'est de parcourir ce dictionnaire des risques psychosociaux autour de trois oppositions, ou trois évolutions, ou trois débats, finalement, que l'on retrouve autant sur les problématiques de recherche autour des risques psychosociaux, mais aussi autour des actions, des dispositifs de prévention. D'une part, la distinction entre des demandes, des contraintes et des ressources. On va toujours retrouver, quand on aborde les risques psychosociaux, ces deux aspects de manière assez fréquente. Ensuite, j'aborderai un autre axe de lecture qui est celui de la mise en tension entre l'individuel et le collectif, qui est aussi un sujet sur lequel on s'interroge sur les risques psychosociaux. Et enfin, puisque effectivement on est dans la semaine de la qualité de vie au travail, c'est celle, je dirais, du lien ou de l'opposition entre les risques psychosociaux, les souffrances, l'épuisement, le stress et le bien-être et la qualité de vie au travail. Qu'est-ce qui relie tout cela? Alors si on évoque le premier point, celui des demandes et à contrario des ressources, on voit bien que quand on cherche à définir, à concevoir les risques psychosociaux au travail, eh bien, toutes les définitions mettent en avant, en exergue, la notion de demande. Et que ce soit dans les définitions qui sont données sur le stress au travail, on a par exemple des définitions qui, là aussi, sont habituelles. Le stress va survenir lorsqu'il y a un déséquilibre entre la perception qu'une personne a des contraintes que lui impose son environnement et la perception qu'elle a de ses propres ressources pour y faire face. Donc on voit bien que ce stress va naître de cette confrontation entre des contraintes et des ressources individuelles et collectives pour y faire face. Alors, l'un des premiers modèles de stress qui est maintenant, je dirais, en vigueur et qui est le plus utilisé pour mesurer le stress au travail, c'est le modèle de Karasek. Karasek est un chercheur, effectivement, du Nord, l'Europe du Nord, qui a conçu un modèle de conditions de travail mettant en avant trois dimensions qu'il jugeait essentielles pour expliquer les problèmes de santé au travail. C'est d'une part la charge de travail, la surcharge de travail, c'est-à-dire la charge de travail quantitative que le salarié, le professionnel a réalisée, mais aussi c'est la complexité du travail. C'est d'autre part le manque d'autonomie dans le travail, par exemple la variété, plus ou grand, moins grande variété des tâches. C'est également l'utilisation de ses compétences, c'est aussi le degré de décision. Et enfin, c'est le manque de soutien dans le travail, soutien par les collègues, par la hiérarchie. Et selon ce modèle, c'est la juxtaposition et la succession de ces trois facteurs, charge de travail importante, manque d'autonomie et manque de soutien, qui prédit la mauvaise santé des professionnels. Alors, ceci a été utilisé dans beaucoup, beaucoup d'enquêtes épidémiologiques dans tous les pays du monde et a montré que, particulièrement lorsqu'on se trouvait dans des métiers, des professions et des postes, qui effectivement se caractérisait par ces trois facteurs de risque, eh bien, on présentait deux fois plus de risques de développer des maladies cardiovasculaires, particulièrement, et également de développer des dépressions. Et par ailleurs, ce que souhaitait montrer Karasek, c'est que il ne suffit pas effectivement d'avoir un travail qui effectivement nécessite une charge de travail importante, mais le fait de pouvoir disposer d'une bonne autonomie dans son travail et de disposer d'un soutien satisfaisant permettait d'atténuer effectivement ces risques pour la santé des professionnels. Alors, le problème, enfin ce n'est pas un problème, mais simplement ce modèle, bien qu'heuristique, a montré qu'il n'apportait pas grand-chose finalement à l'explication, je dirais, des déterminants de la santé au travail, puisque on y retrouve dans ces métiers à risque les catégories socioprofessionnelles les plus basses, notamment les catégories d'ouvriers se trouvent dans les situations les plus à risque. Et les catégories de cadres se trouvant dans les situations les plus, en quelque sorte, salutogènes. Alors, c'est ensuite un deuxième modèle, cette fois-ci d'un Allemand, qui est Sigrist, qui lui a apporté une certaine nuance dans cette modélisation de la santé au travail par le stress. Finalement, il a repris les facteurs de risque de Karasek, mais selon lui, c'est en fait l'écart qu'il y a entre ces demandes, par exemple la surcharge de travail, et c'est-à-dire les efforts que l'on accomplit dans son travail, et les ressources que l'on retrouve dans son travail, qui expliquent effectivement la santé au travail. Alors, notamment, c'est cet écart entre ces efforts déployés dans les tâches et les responsabilités, également les bénéfices que le travail apporte en termes de rémunération, d'estime, de valorisation, de soutien justement de la hiérarchie, des collègues, mais également, également en termes d'autonomie. Donc cette autonomie est une ressource, ce soutien est une ressource, et donc le stress s'explique par finalement ce décalage entre une trop forte demande et un manque de ressources. Donc ce modèle finalement là aussi a été très très utilisé dans les enquêtes épidémiologiques, souvent en comparant les deux modèles, et là aussi a montré son grand facteur explicatif déterminant la santé, là aussi physique et psychologique des professionnels. Enfin, troisième modèle de stress qui est aussi intéressant pour effectivement mettre en perspective ces notions de contraintes et de ressources, c'est le modèle d'Hopfel. Hopfel est un Américain, psychologue de la santé, pour qui, finalement, ce ne sont pas les contraintes ou les demandes qui sont importantes pour expliquer la santé au travail, mais c'est plutôt la perte des ressources personnelles et des ressources sociales. C'est-à-dire, le travail va, dans certaines conditions, détériorer les ressources des professionnels. Et cela va constituer une spirale de la perte. Par exemple, un professionnel qui perd son emploi va perdre non seulement ses ressources matérielles, l'environnement physique dans lequel il évoluait, mais il va souvent perdre son réseau social, donc il va perdre ses amis, donc l'ensemble de ses ressources sociales, et il va perdre également sa confiance en lui-même. Et donc il va perdre ses ressources psychologiques. Donc ceci constitue finalement une spirale de la perte. Et cet ensemble de spirales de la perte, souvent, n'est absolument pas compensé par un essai de gain de ressources. Et donc, selon Hopfel, le stress, finalement, c'est soit la menace de perdre des ressources, par exemple un licenciement, mais ça peut être également la perte réelle de ces ressources, ou encore le fait de ne pas pouvoir disposer de ressources nouvelles venant compenser ces pertes ou venant compenser des investissements réalisés. Ça peut être un changement de poste qui n'est pas désiré. Donc on voit bien que dans l'évolution de ces conceptions, la notion finalement de contrainte passe un petit peu le relais à celle de ressources. Or, ceci est très important parce que dans cet essai de définition, cela a un impact finalement sur les dispositifs de prévention que l'on est en mesure de mettre en place. On voit bien que dans les dispositifs de prévention primaire, secondaire, tertiaire qui sont mis en œuvre dans le cadre effectivement des risques psychosociaux, on va soit chercher à réduire les contraintes et les demandes du travail, soit on va chercher à augmenter les ressources individuelles et collectives pour faire face effectivement à ces menaces. Et dans ce cadre-là, les axes de préservation des ressources vont tourner autour de différents axes. Il y a d'une part la recherche de préservation du capital matériel. C'est effectivement le maintien des, notamment des investissements, des gratifications, des conditions de travail, des statuts. C'est également le maintien et la préservation du capital social, le travail sur le collectif, les équipes de travail. Mais c'est aussi la préservation du capital psychologique, la manière effectivement avec laquelle on va travailler la valorisation des compétences et la valorisation du professionnel. Donc ceci est finalement un fil conducteur qui nous permet de comprendre comment se mettent en place ces dispositifs de prévention des risques psychosociaux autour de ce questionnement sur à la fois les risques psychosociaux, ce sont des contraintes, mais ce sont aussi des ressources. Le deuxième axe de problématique qui effectivement nous interroge lorsqu'on aborde les risques psychosociaux, soit dans la définition des facteurs de risque, soit dans celle définition des dispositifs de prévention, c'est celle de la mise en tension entre l'individuel et le collectif. On voit bien que ce qui se joue tant au niveau de la description des facteurs de risque psychosociaux que des dispositifs de prévention, c'est l'interface entre l'inadéquation entre le niveau individuel, le niveau groupal, par exemple l'équipe de travail, ou encore le niveau sociétal, particulièrement par l'intermédiaire de l'organisation du travail. Et là, bien sûr, on peut évidemment évoquer la dimension culturelle. En effet, lorsqu'on aborde la question des risques psychosociaux par le volet des contraintes ou des demandes, on prend conscience que la surcharge de travail ou encore le manque d'autonomie, ou encore le manque de soutien de la part des collègues ou de la hiérarchie, finalement, n'existe dans le discours des professionnels comme facteur de souffrance au travail que dans cette tension entre ce que l'autre me demande de faire et ce que je fais réellement, ou ce que je suis en capacité de faire. Et là, bien sûr, on est tout à fait dans le cœur du sujet de ce que les ergonomes travaillent, c'est celui du travail prescrit en opposition au travail réel, à la réalité de l'activité. Et là, je dirais, le niveau individuel se pose notamment par la notion d'activité empêchée, ce qui revient beaucoup dans les discours des professionnels, c'est justement cette incapacité à pouvoir faire une activité telle qu'on souhaiterait pouvoir la faire. C'est par exemple une activité inhibée, une activité qui devient difficile. Alors bien sûr, ce que l'on cite souvent, ce sont les tâches de planification, de coordination, les réunions, quand on ne parle pas de réunionnite, les sollicitations, le traitement des messages, particulièrement des messages électroniques, sont des sources de dispersion qui viennent souvent interrompre finalement la véritable, ou ce que chaque professionnel nomme, l'activité principale. Et finalement, dans ce niveau individuel, ce qui revient, c'est celui de ne pas faire un travail de qualité. D'où évidemment la notion très très individuelle, mais aussi très sociale, de qu'est-ce que c'est qu'un travail de qualité. Et c'est aussi ne pas faire un travail faute de moyens. Ce qui, à terme, et souvent très rapidement, a tendance à détériorer le sentiment de réalisation de soi. Mais dans ce niveau individuel, également, l'autre, il est important. L'autre, c'est celui qui donne le travail, c'est le manager. C'est lui qui fait en sorte que l'action collective est performante. Alors, bien évidemment, vous le retrouverez en entrée dans ce dictionnaire, le manager, c'est celui qui est souvent au centre du sujet des risques psychosociaux. Parce qu'il peut être la source des risques psychosociaux pour les autres, mais il peut aussi être la victime. Alors le manager, il travaille sur l'autre, justement. Il travaille sur le subordonné, dans le cadre d'une culture managériale, donc une culture collective, sociale, qui valorise de plus en plus, et bien sûr ça on peut le constater, une gestion instrumentalisée de la relation de travail. Et donc, effectivement, dans une organisation de travail actuelle, que l'on peut qualifier de moderne, l'impératif de la performance est bien sûr de plus en plus fort. Et bien sûr, dans ce cadre-là, la position hiérarchique, c'est souvent celle-ci qui constitue la figure de la contrainte. Mais pour l'individu, qui est le manager, tenir cette position est quelquefois très difficile, notamment lorsqu'on se trouve dans une structure organisationnelle qui est floue, lorsque l'autorité n'est pas clairement définie, eh bien, par une position statutaire, lorsqu'il y a une multiplicité de patrons, eh bien là, l'individuel revient à la charge, et dans ce cadre-là, la posture d'autorité, en quelque sorte, fait la place finalement à l'autorité statutaire. Et dans ce cadre-là, je dirais, la personnalité du manager devient importante et peut-être, d'une certaine manière, peut constituer ce risque psychosocial. Dans la mesure où cette nécessité de tenir sa position peut entraîner un abus de pouvoir et peut détériorer le climat de travail. Mais le manager peut aussi être victime de ce risque psychosocial, dans la mesure où lui aussi fait l'objet d'attentes de la part de ses subordonnés, mais d'attentes aussi de la part de ses supérieurs. C'est le rôle du manager à tenir. Ce sont des représentations collectives qui sont effectivement en jeu. Mais aussi, ce qui se joue, ce sont des problèmes de compétences. Et là, on voit bien qu'effectivement, la notion de compétence devient essentielle dans, lorsqu'on aborde et lorsqu'on évoque les risques psychosociaux du manager. Ce qui fait que, effectivement, le manager, dans sa problématique des risques psychosociaux, et lorsqu'on doit effectivement travailler sur la prévention des risques psychosociaux par l'intermédiaire d'un travail sur le manager, il est important, effectivement, de commencer par la valorisation et la revalorisation des compétences. Le travail sur la légitimité fondée sur ces compétences, des compétences qui sont reconnues, et la revalorisation des missions du manager dans le sens d'une augmentation de sa marge de manœuvre. Le travailler sur les risques psychosociaux dans une entreprise ne peut se faire sans travailler sur les risques psychosociaux des managers. Alors, bien entendu, dans cette mise en tension entre l'individuel et le collectif, on observe également que l'évolution des modes d'organisation du travail mobilise de plus en plus les ressources individuelles, beaucoup plus que les ressources collectives. On valorise évidemment à outrance les ressources individuelles. On met en concurrence les ressources individuelles. Ce qui explique en grande partie l'épuisement des professionnels. Il est évident qu'un professionnel qui ne peut que faire appel à ses ressources individuelles sera forcément à un moment ou à un autre épuisé. Alors les travaux qui ont été entrepris sur les dispositifs de prévention des risques psychosociaux montrent malheureusement que l'on utilise beaucoup plus des dispositifs de prévention des risques psychosociaux basés sur, je dirais, le niveau individuel, l'augmentation effectivement des ressources individuelles, et l'on choisit beaucoup moins de travailler sur le niveau collectif. Or, beaucoup de recherches internationales ont montré que les meilleurs résultats sur les dispositifs de prévention des risques psychosociaux étaient lorsqu'on travaillait sur le niveau collectif. D'où, évidemment, l'un des modèles qui nous semble peut-être approprié si on travaille sur le collectif, c'est celui finalement d'une recherche de ressources collectives par l'intermédiaire particulièrement du dialogue social. C'est-à-dire un travail sur la démarche préventive de prévention des risques psychosociaux. Alors, dialogue social, évidemment, quoi de neuf ? On peut dire que le dialogue social ne se limite plus aux seules relations entre la direction et les représentants du personnel. Il est intéressant de voir que dans une problématique des risques psychosociaux, notamment, je dirais, dans la mise en œuvre de dispositifs de prévention, le dialogue social va s'envisager sous l'angle des relations de travail, en intégrant bien sûr l'encadrement et les salariés, et que mener un dialogue social et y intégrer une démarche participative autour des risques psychosociaux, c'est d'une part commencer déjà en soi à définir ce qu'on entend par risques psychosociaux. Et en soi, c'est déjà mettre en œuvre en quelque sorte une démarche de prévention des risques psychosociaux. C'est déjà se mettre d'accord sur ce qu'on appelle les risques psychosociaux dans son entreprise. C'est lever les confusions entre les causes et les conséquences. C'est lever les confusions entre les approches individuelles, les approches collectives, les approches plutôt primaires de prévention, plutôt secondaires ou plutôt tertiaires. Mais c'est aussi définir les acteurs, c'est définir les délais de mise en œuvre, c'est définir les actions. C'est construire une culture partagée à partir souvent de périmètres d'expertise. Et là, on voit bien que cette mise en commun, souvent, c'est un pilier essentiel finalement à la prévention des risques psychosociaux. C'est adopter une approche interdisciplinaire, mais c'est aussi augmenter les compétences de chacun. Alors, l'observation que l'on peut faire finalement dans ce dialogue social, c'est que lorsqu'il porte sur les risques psychosociaux, il y a un grand temps qui est donné sur les questions de méthode. Comment va-t-on procéder ? Pour mesurer les risques psychosociaux, déjà on va débattre sur ce qu'on appelle la mesure des risques psychosociaux. Et au final, on peut dire que le défi dans ce dialogue social, ça va être dans un premier temps une prise de conscience collective. Prise de conscience de ce que sont les risques psychosociaux, de ce qu'ils engendrent finalement, et de leurs répercussions, et donc une prise de conscience sur notre organisation de travail collective. Et on peut dire que le bien fondé de l'ensemble de ces accords cadres français-européens sur le risque psychosociaux, finalement, a été d'accroître cette prise de conscience et cette compréhension des phénomènes. Et donc, dans ce sens, c'est déjà un outil de prévention des risques psychosociaux. Donc, on le voit bien, cette articulation entre l'individuel et le collectif, finalement, d'une démarche individuelle vers une démarche collective, souvent sont en étroite interaction. Et on peut dire que on raterait une bonne action de prévention si on choisissait entre l'individuel et le collectif. Enfin, pour terminer cette présentation succincte de ce dictionnaire, un troisième axe finalement de lecture, c'est celui du lien ou de l'opposition entre des thèmes que, bien sûr, qui traversent les thèmes du risque psychosociaux. Ce sont ceux de la souffrance, de l'épuisement, du stress et, à contrario, du bien-être, du plaisir, de la qualité de vie au travail et de la qualité du travail. Alors, évidemment, on entend plus parler de l'épuisement professionnel, du stress, de la souffrance, que du bien-être au travail. Bon, quelques peut-être aspects de définition, le burn-out, l'épuisement, c'est effectivement très à la mode. C'est un terme qui date des années 1970. Derrière ces notions-là, c'est avant tout un syndrome effectivement qui correspond à la phase ultime du stress chronique, qui se caractérise par une fatigue intense liée à des facteurs de travail, facteurs de stress au travail, qui a été au préalable, dans un premier temps, envisagé dans toutes les professions de la relation à l'autre, c'est-à-dire les professions de l'aide, du soin, les travailleurs sociaux, les éducateurs, les infirmiers, les médecins, les policiers. C'est-à-dire toute activité professionnelle qui nécessitait un travail sur l'autre. Et au fur et à mesure, ce construit a été généralisé à l'ensemble des métiers avec quelques distinctions, puisqu'il se caractérise par trois grandes dimensions. D'une part, l'épuisement émotionnel, le fait d'être débordé dans ses activités, de ne plus avoir les ressources émotionnelles pour faire face aux situations difficiles. C'est également la mise à distance dans les métiers du soin de l'autre, de l'usager, qui peut se manifester par des attitudes et des postures professionnelles, enfin dites non professionnelles, de distance cynique et d'irritabilité à l'égard des usagers. Et c'est également le manque d'accomplissement professionnel dans le travail. Donc un ensemble de symptomatologie également physique. Effectivement, certains travaux ont montré que les professionnels atteints de burn-out présentaient également plus de risques de développer des maladies cardiovasculaires, étaient plus atteints par effectivement des maladies immunitaires. Et donc, effectivement, ce syndrome d'épuisement professionnel, la grande différence avec, parce qu'on le confond souvent avec des symptomatologies dépressives, c'est que d'une part, l'épuisement professionnel n'est causé que par les conditions de travail, alors que les facteurs de risque de dépression sont plus larges. D'une part, également, l'épuisement professionnel possède cette caractéristique d'attitude non professionnelle que ne possède pas la dépression. Par ailleurs, souffrir de burn-out est souvent moins culpabilisant effectivement que souffrir de dépression, car ça externalise bien sûr les causes, puisque les causes sont professionnelles. Alors, l'épuisement professionnel, a un rôle bien sûr important dans la problématique des risques psychosociaux, et ce qui se joue actuellement, c'est sa reconnaissance comme maladie professionnelle. Et c'est pour cela qu'effectivement, il est important de pouvoir déterminer quels sont les facteurs de risque et comment se manifeste cette symptomatologie. Bon, on sait effectivement que les symptomatologies d'épuisement sont différenciées, puisque notamment, ça se manifeste par des difficultés d'endormissement, alors qu'effectivement, dans les symptomatologies dépressives, on a d'autres problématiques. Mais en l'occurrence, l'épuisement professionnel est une conséquence des risques psychosociaux et donc une conséquence du stress qu'il convient effectivement de prendre en charge, puisque l'épuisement professionnel va réduire l'engagement au travail. Ceci est souvent assez caractéristique. Alors, il ne s'agit pas de rentrer dans cette, je dirais, dans ce débat qui est stérile. Doit-on dire que les personnes épuisées sont celles qui sont le plus engagées dans leur travail? A-t-on affaire effectivement à ce qu'on appelle les workaholics, des gens addicts à leur travail? Nous avons souvent, je dirais, des profils de personnes épuisées de diverses modalités. Et on ne peut pas dire que les personnes les plus engagées dans leur travail sont celles qui seront les plus épuisées au final. Mais ce qu'il est important de savoir, c'est qu'à terme, effectivement, cet épuisement professionnel peut conduire à de véritables dépressions. Alors si, bien sûr, il est important de prendre en compte ces conséquences, comme l'épuisement professionnel, les manifestations de stress, de dépression, dans certains cas extrêmes, le suicide au travail ou lié au travail. On voit bien que je dirais, si on aborde les problématiques de prévention des risques psychosociaux, il faut sans doute aller beaucoup plus loin dans la prévention et mieux définir par ce qu'on entend par prévention de la santé. Et là, on peut dire que les choses évoluent dans le bon sens, dans le sens où, partant du constat que le travail, finalement, quand il est exercé dans de bonnes conditions, est un facteur de préservation de la santé, que l'on peut faire finalement le lien entre l'allongement des carrières, le maintien dans l'emploi, de bonnes conditions de travail et finalement une bonne santé globale. Certains travaux, notamment certaines recherches internationales, ont montré que l'un des premiers facteurs, non pas de risque, hein, mais de risque positif, d'une bonne, je dirais, d'une mortalité, une morbidité, d'une vieillesse agréable, c'est la satisfaction au travail. Hein. Donc on voit bien qu'effectivement, ceci est essentiel. D'où se pose la question de celle du lien entre les politiques de travail et des politiques de santé. Ne doit-on pas effectivement travailler ensemble ces politiques, puisque évidemment il faut éviter que le travail, qui est un intégrateur essentiel, un lieu d'intégration et de santé, ne soit pas un lieu d'exclusion et de mauvaise santé. Et donc là viennent effectivement des termes que l'on entend de plus en plus utiliser et qui sont en quelque sorte les axes de travail autour de dispositifs de prévention. Ce sont les notions de bien-être. Qu'est-ce que c'est que le bien-être? Sinon, celui d'un état qui est bien sûr subjectif et qui va être caractéristique d'un fonctionnement social optimal. Et là, nous sommes véritablement au cœur de la notion centrale de l'individu dans un contexte social, qui signifie que ce bien-être, c'est maintenir sa capacité à se réaliser dans son travail, C'est pour un individu chercher à maximiser son plaisir et à minimiser ses déplaisirs. Alors, tout ceci peut paraître utopique, mais au final, c'est ce que chacun fait quotidiennement dans son travail. D'où, évidemment, sans doute la nécessité maintenant d'aller non pas autour de la prévention des risques psychosociaux, mais de travailler à la prévention de la qualité de vie au travail. Jusqu'à même travailler sur la promotion de la santé au travail. Alors on entend, effectivement, on peut parler d'entreprise ou d'établissement, de promoteur de santé, pour lesquels, finalement, l'objet, cela va être de travailler à satisfaire les besoins primaires, finalement, des professionnels. Ça va être améliorer les besoins ou travailler sur les besoins d'affiliation, travailler sur les besoins d'accomplissement, d'engagement personnel dans le travail, d'autonomie et donc de reconnaissance. Cela va être également de satisfaire des valeurs. Qu'est-ce que c'est qu'un travail bien fait? Qu'est-ce que j'entends lorsque je dis « j'ai bien fait mon travail » Et donc là, on voit bien que dans ce passage, finalement, de ces problématiques des risques psychosociaux, se joue finalement la notion même, qu'est-ce que c'est que la santé au travail et peut-on finalement être en bonne santé dans son travail, être dans un contexte qui à la fois épanouit individuellement et épanouit collectivement. Voilà, j'en ai terminé avec cette présentation. Et...